Voilà, merci pour ce moment de louange. Merci Seigneur, parce qu'on peut même avec quelques petits couacs louer le Seigneur. L'imperfection arrive. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Tu savais ça? Alors, Pierre, à toi. Merci.
Merci beaucoup.
C'est très bien. Prie pour toi.
Merci.
Seigneur, merci de nous avoir envoyé Pierre. Merci pour ce qu'il va nous apporter de ta part. Je te demande que nos cœurs soient réceptifs, que nous puissions faire un pas de plus avec toi ce matin, dans notre vie journalière avec toi. Seigneur, merci de nous aider, de nous conduire. Et sois avec Pierre, je te demande de le bénir. Au nom de Jésus. Amen.
Merci. Voilà, nous sommes très heureux et reconnaissants, mon épouse et moi-même, de nous retrouver dans cette communauté où j'ai déjà eu l'occasion de prêcher à quelques reprises. Et puis, par le bon vouloir du Conseil de l'Église, aussi encore quelques fois jusqu'au mois de juin, dont deux cultes 4D d'ailleurs. Alors ce matin, je vais procéder un peu différemment, puisque je ne vais pas faire une lecture introductive, mais nous aurons l'occasion de découvrir plusieurs textes bibliques en cours de prédication. Cette méditation, ce matin, elle est le fruit de ma lecture de la parole. Un matin, j'ai lisé quelques textes dans l'Ancien Testament, que nous allons découvrir, et quelques temps plus tard dans la journée, un texte du Nouveau Testament des Évangiles. Et je suis toujours frappé et interpellé par ces connexions entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et nous allons voir quand même cette unité de la parole de Dieu. Alors tout d'abord, je vous pose une question, je suis sûr qu'il y aura une réponse claire. Est-ce que vous connaissez la pierre de Zoélète? Écoutez, mes amis, ce n'est pas grave. Je vais vous aider. On m'a dit de presser et d'attendre patiemment. Oups là, ça va un peu vite. Ah, je vous aide. La pierre de Zoélète qui est à côté de Ein Roguel. Est-ce que tout c'est clair? La pierre de Zoélète qui est à côté de Ein Roguel. Encore un petit coup de pouce pour mieux comprendre ce que nous dit le texte. Ah, voilà. Si vous prenez des versions plus récentes, vous découvrirez qu'il s'agit de la pierre qui glisse près de la source des blanchisseurs. Vous voyez où on est? La pierre glissante. Frères et sœurs, la pierre glissante près de la source des blanchisseurs. Que se passe-t-il dans ce lieu particulier? Vous l'aurez deviné dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le premier chapitre de 1 Roi, verset 9. Nous nous trouvons ce matin dans cette région où nous allons découvrir un moment particulier de la vie d'un jeune homme. Un jeune fils de roi organise une grande fête. Cet homme, ce jeune homme d'une vingtaine d'années, s'appelle Adonia. On l'appelait un temps Adonija, c'est devenu Adonias, et je l'appellerai, d'après certaines versions, Adonia. Nous sommes réunis pour une grande fête, non pas un week-end d'église de Villars à la Folie, mais une grande fête pour un jeune homme qui jouait au prince en disant « C'est moi qui serai le roi ». Et il se mit à comploter. Lorsque nous relisons un roi 1, nous voyons effectivement que la passation de pouvoir entre David et son successeur n'est pas évidente. Nous voyons un homme, David, à la fin de sa vie, sur son lit de mort. Dans quelques jours, il partira auprès de Dieu. Et dans ces moments-là, un jeune veut prendre une place importante dans la succession du royaume d'Israël. Et il organise une grande fête pour dire « C'est moi, quatrième fils de David, c'est moi qui serai le roi. » Et on voit qu'il y a un temps de flottement dans la version d'un roi, c'est plus positif dans un chronique, mais Bathsheba et Nathan pressent le roi de prendre une décision. Et si vous lisez 1 Chronique 28, vous verrez très clairement que Dieu a choisi Salomon pour devenir roi. Alors voilà la prétention d'un jeune homme à devenir roi. Et ce qu'il y a d'incroyable et qui ne nous surprend pas tellement, c'est que dans ces moments-là, il y aura toujours des personnes qui viendront à la fête. Il y aura toujours des personnes influentes dans le royaume d'Israël qui se joindront à ce jeune homme. Des prêtres, des responsables du peuple d'Israël se réunissent autour d'un grand repas. Vous savez où ça se trouve, la pierre de Zoélète ? C'est la vallée du Cédron. Très connu au temps de Jésus, n'est-ce pas ? Au sud-ouest de Jérusalem, à quelques encablures de Jérusalem, c'est là que se célèbre cette fête. Mais ne l'oublions pas, nous sommes à la pierre qui glisse. Et tout à coup, au milieu de la fête, il y a un bruit. Il y a un bruit et tout le monde crie « Vive le roi Salomon !» Et mes amis, en quelques instants, la fête est terminée. En quelques instants, tous les invités, nous dit le texte de la parole de Dieu, tous les invités furent effrayés et chacun partit de son côté. Et le texte nous dit plus tard que certaines de ces personnes sont parties en exil et d'autres sont mortes. Pour la plupart de ces gens, ce fut un mauvais choix. Ce fut une pierre glissante. Ils se sont laissés entraîner, poussés par l'espoir d'avoir un poste important dans ce royaume. Mais tout s'écroule, pierre glissante, pente glissante. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon... Mais j'ai l'impression qu'il me manque. Voilà, très bien. Tous les invités furent effrayés, ils se levèrent et ils s'en allèrent chacun de son côté. Mais dans ces moments-là, il y a une parole solennelle que nous voulons retenir ce matin. David, sur son lit de mort, va nous laisser un verset, un de ces textes de la parole de Dieu dont elle a le secret. Et voici ce que dit David dans ces moments particuliers. Par le Seigneur vivant, qui m'a toujours secouru, quand j'étais dans des situations difficiles. Une des toutes dernières paroles de David, il a 70 ans, il va quitter cette terre. Par le Seigneur vivant, qui m'a toujours secouru quand j'étais dans des situations difficiles. Quand on relit la vie de David, c'est une vie assez chaotique. Bien sûr, il y a la victoire sur Goliath. Mais quel fut le lendemain de la victoire sur Goliath ? David, dans sa vie, a rencontré des situations difficiles, des ennemis sur son chemin, des problèmes sexuels, des problèmes familiaux, la mort d'un de ses fils, de son meilleur ami, Jonathan. Des révoltes, des dangers, la fuite pieds nus sur le mont des Oliviers. Et j'en passe. Combien de fois David a rencontré dans sa vie des situations difficiles, mais vous ne lui enlèverez pas par le Seigneur vivant. Quelle était la connaissance de Dieu de David? Il connaissait ce Dieu vivant, le Dieu de grâce, le Dieu du pardon, le Dieu des délivrances, le Dieu qui l'a relevé, le Dieu qui redonne espoir, le Dieu qui répond aux prières, le Dieu protecteur, le Dieu des promesses. Frères et sœurs, 3000 ans plus tard, nous voici devant ce texte de la parole de Dieu avec notre cheminement personnel, nos réalités d'aujourd'hui. Nous avons plus que David, nous avons toute la parole de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons une communauté, nous avons de très bons livres. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi, une pierre glissante, une situation difficile? Où mettons-nous notre pied? Quelle espérance? Quel point d'appui? Quel est notre témoignage dans les réalités plus difficiles de la vie par lesquelles nous passons? Je sais une chose, nous rappelle David ce matin, il m'a toujours secouru dans mes situations difficiles. Mais voilà, nous tournons la page de notre Bible, et après un fils de David, voici un autre fils de David, un roi 3. Toujours au même moment, nous trouvons une parole forte de Dieu à un jeune homme de 20 ans. Cette parole, nous voudrions tous la recevoir ce matin. Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Nous avons 5 minutes de silence pour réfléchir à cette parole de Dieu. Que pourrais-je te donner, Salomon? Demande-le-moi. Moi qui suis ici au culte ce matin, à l'écoute de Dieu, de son esprit, que vais-je demander? Que demande ce jeune homme? Nous connaissons très bien la réponse et je suis émerveillé de cette parole. Veuille me donner l'intelligence, la sagesse nécessaire pour conduire, diriger, gouverner ce peuple, pour discerner ce qui est bon ou mauvais pour lui ou pour moi. Discerner, donner la sagesse, l'intelligence pour construire ma vie. On peut comprendre cela quand on a 20 ans, mais peut-être aussi à 40 ans, à 50 ans. Diriger, conduire, avoir la sagesse et l'intelligence de prendre les bonnes décisions, d'aller de l'avant. Tiens, Salomon n'a pas sauté sur l'occasion pour demander la richesse, pour demander des biens matériels, pour demander la délivrance sur ses ennemis. Mais il demande des qualités essentielles que l'apôtre Paul rappellera aux églises d'Éphèse, de Colosse, l'indispensable sagesse et intelligence pour les communautés chrétiennes. Dieu répond, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence et je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Et tu en auras plus que tout ce qui existe sur terre. Cette demande, cette prière plut au Seigneur et je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Nous reviendrons à la conclusion dans quelques instants sur Salomon. Quelles sont nos priorités, nos besoins essentiels pour continuer la route dans notre marche avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ? Mais voici que s'ouvre un nouvel horizon pour nous ce matin. Après ces deux chapitres, je relis le sermon sur la montagne. Est-ce que nous prenons le temps de nous offrir quelquefois 3, 4, 5, 6 chapitres de la Bible? Là, vous êtes assis tranquillement, vous prenez le temps un jour de la semaine et vous prenez le temps de lire une bonne portion de la parole de Dieu. Et vous prenez le sermon sur la montagne dont vous avez entendu déjà 50 messages, et vous relisez d'une seule traite ces trois chapitres. Ce monument, ce discours d'ouverture magistrale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un thème particulier dans ce sermon sur la montagne. 15 fois dans le sermon sur la montagne, notre Père, votre Père, ton Père, mon Père, tiens, discours d'ouverture de Jésus, et 15 fois devant cette foule et devant ses disciples, Jésus parle d'un Père qui est dans les cieux. Il est notre Père, nous le connaissons bien sûr, mais il est à 8 reprises votre Père, ton Père, et une fois mon Père. Frères et sœurs, peut-être ce matin, pensons-nous que ce Père qui est dans les cieux est bien inaccessible, bien silencieux, bien inabordable, même si Francis Schaeffer a écrit un livre « Dieu ni lointain ni silencieux ». Et pourtant, dans l'évangile de Jean, nous entendons constamment Jésus dire « Le Père qui m'a envoyé ». Frères et sœurs, ce Père qui est dans les cieux nous laisse 4 réalités ce matin. 4 réalités que nous voulons garder en partant de ce lieu de culte. Jésus-Christ nous dit ce matin, ton Père est là. Jésus-Christ nous dit ce matin, ton Père voit. Et Jésus-Christ nous dit ce matin, ton Père sait. Et Jésus-Christ nous dit ce matin, ton Père te le rendra. Mais, frères et sœurs, à qui Jésus s'adresse-t-il? De qui est-il question dans le sermon sur la montagne? Mais ce sont des gens qui mangent, des gens qui s'habillent, des gens qui ont faim, qui ont soif. Ce sont des gens qui ont les réalités de l'argent, des trésors, des gens qui jeûnent, des gens qui prient, de la vie conjugale, d'un homme qui renvoie sa femme, des convoitises, construire des maisons, des procès, des frères et sœurs, des ennemis. Ton Père est là, ton Père voit, ton Père sait, ton Père te le rendra. Aussi, j'aimerais ce matin vous laisser particulièrement 3 paroles de notre Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne en lien avec ces 4 réalités. Nous gardons ce matin 3 paroles fortes de notre modèle, de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Les besoins essentiels de la vie, notre Père qui est aux cieux sait ce dont nous avons besoin ce matin. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, comme dans 1 Roi 3. À combien plus forte raison, il y a des pères, tous ne sont pas parfaits, nous le savons très bien, et pourtant, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et troisièmement, votre Père, nous dit Jésus, c'est déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien sûr, en tant que Dieu souverain, Père souverain. Ainsi, frères et sœurs, la boucle est bouclée avec Salomon. Avec la juste demande de Salomon. Ce Père qui était déjà dans les cieux, auprès de ce jeune roi Salomon, et qui lui a donné la sagesse et l'intelligence, quelles sont les bonnes choses que nous voulons demander ce matin à Dieu? Quelles sont les bonnes choses dont nous avons besoin essentiellement à ce Dieu, ce Jésus-Christ qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Le sermon sur la montagne me rappelle aussi que ma pratique religieuse, ma piété, mon attachement à Dieu ne se vit pas pour nous faire valoir. Car dans ce sermon sur la montagne, il est question du secret, dans le secret. Il voit dans le secret. Jésus nous demande « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors je comprends cette parole de Jésus, toujours dans le sermon sur la montagne, qui me dit « Entre dans ta chambre, ferme tout et reste là seul auprès de ce Père qui est dans les cieux. » Car tu sais, il est là dans le secret de cette chambre, de ce lieu préféré que tu as dans ta maison. Et tu sais qu'il voit, il est là. Et il te le rendra d'une façon ou d'une autre. Nous déconnecter de tout pour être seuls avec notre Père qui est dans les cieux. Et ce Père saura nous donner de bonnes choses. Conclusion. Je suis toujours effaré et triste quand je lis la deuxième partie de la vie de l'homme le plus sage de la terre. Salomon, qui aimait le Seigneur, c'est le premier verset de la vie de Salomon. Écoutez bien. C'est le premier verset de la vie de Salomon. Il aimait le Seigneur. Et ça se termine par « Il aimait les femmes étrangères et l'idolâtrie. » Portons constamment nos regards vers le Seigneur vivant, notre Seigneur dont ma foi dépend de A à Z, du premier jour de ma conversion jusqu'à mon dernier jour. Celui qui nous a toujours secourus dans nos situations difficiles. Nous l'avons lu en introduction, je ne le savais pas, mais c'était très bien conduit. Et effectivement, nous sommes le sel de la terre et nous sommes lumière du monde. Et nous devrions voir nos œuvres bonnes que nous pratiquons, non pas dans l'Église, c'est très bien, mais dans le monde, là où Dieu nous place tous les jours de la semaine. Quelle lumière avons-nous apporté ces derniers temps dans notre entourage, dans notre horizon professionnel, dans nos amitiés, dans nos relations sociales? Devant les hommes, devant les êtres humains. Et de nouveau ce verbe, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père. Frères et sœurs, j'aimerais simplement ce matin que nous continuions à fixer les regards sur le Christ crucifié et ressuscité. Le Christ qui ne cessait dans son ministère terrestre de porter les regards vers ce Père qui est dans les cieux. Ce Christ qui prenait le temps de prier. Ce Christ qui prenait le temps de méditer la parole. Ce Christ qui trouvait les temps de se ressourcer pour continuer la route vers Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Souvenons-nous que la pierre qui glisse près de la source des blanchisseurs, s'il y a une pierre qui glisse, il y a une source qui blanchit tout. Et c'est le Christ, le grand blanchisseur. Comme le disait Henri Blocher, le plus grand éboueur de tous les temps, c'est Dieu. À la croix de Golgotha, où il ne cesse de nous purifier de tout péché. Et si quelque part nous sommes sur une pierre glissante, il y a le Christ qui blanchit tout dans sa grâce. Ton Père est là, ton Père voit, ton Père sait, ton Père te le rendra. Cette demande plut au Seigneur. Puisse-t-il être réjoui des demandes que nous allons lui faire cette semaine pour nous aider à avancer, à continuer la route dans notre marche avec lui. Amen. Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Il y a des circonstances bien délicates dans la vie, comme nous le voyons avec Adonija, cette fête qui a tourné court, cette ambition qui a tourné court, et ton choix souverain dans la personne de Salomon. Oui, Père Céleste, pour continuer la route, nous avons tellement besoin de cette sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, tant de qualités, tant indispensables pour mener à bien nos projets, nos engagements et vivre notre relation avec toi jour après jour. Mieux que David, nous pouvons compter sur le Seigneur vivant, le Dieu vivant, ce secours inestimable de tous les jours et dans nos situations difficiles, voire inextricables. Merci aussi parce que nous avons ce Père si proche qui est là, près de nous. Ce Père à qui nous pouvons parler, tout confier, apporter nos vraies demandes et d'une manière ou d'une autre, cette semaine encore, il nous le rendra et nous l'en remercions. Amen.